Sur Réunion Première, une exposition originale donc rare avec des objets précieux à découvrir aux archives départementales. L'exposition s'appelle « Les francs-maçons et la mer ». Deux livres sur l'esclavagisme et l'engagisme viennent de sortir. Le premier traite du problème à travers le prisme économique et l'autre à travers un procès pas connu, le procès Morette.
Culture Première.
Messieurs, bonsoir. Merci à tous les quatre d'être dans ce studio.
Serais-tu liberté si, comme tant d'autres, mes pères n'avaient osé faire couler jusqu'à l'heure sans couvre toi naguère et même donner leur vie, leur âme pour que tu sois aujourd'hui tout ce que tu es. Serais-tu liberté, ben juste en train de me dire que toutes ces choses du passé n'ont plus aucun avenir, qu'il ne sert plus à présent à rien de vouloir se battre encore au nom de tout ce que tu es. Aurais-tu liberté d'oublier notre histoire?
Première.
Voilà, vous l'avez certainement reconnu, c'était Davy Sicard qui chantait au nom de mes pères. Je pense qu'il y a quand même un rapport avec l'esclavagisme dont on va parler avec nos invités. Alors, indifféremment, je me suis dit, je vais commencer par vous, monsieur Gérard. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Gilles Gérard, avec Martine Grimaud, vous avez donc commis un livre, tous les deux, Des esclaves sous le fouet, le procès Morette à l'île Bourbon. J'avoue que je ne connaissais pas du tout ce personnage. Que j'ai découvert grâce à vous. J'avoue que j'ai découvert donc Martine Grimaud, que je connais un peu, je ne savais pas qu'elle était romancière. Et j'avoue que je vous ai découvert aussi, je ne savais pas que vous étiez universitaire. Monsieur Morette, c'est un personnage quand même qui est... Alors aujourd'hui, on dirait purée, mais c'est un vachard celui-là.
À la radio, on va rester poli. Donc oui, oui on peut dire vachard pour pas...
Oui, c'est ça.
Non, c'est un pervers.
Bon, un malade.
C'est un malade, oui, c'est un malade. C'est en ça que l'histoire ne doit, qui est dans, présentée dans ce livre, ne doit pas être prise comme représentant tous les propriétaires.
Est-ce que vous l'avez trouvé, ce bonhomme, sous les fagots?
Comme tout bon historien, aux archives départementales. Donc il y a.
Vous connaissiez vous Monsieur Morette, Marc de Sadeau?
Non.
Ah d'accord.
Non,
ok.
Je découvre.
Donc, je vous coupe. Excusez-moi.
Plusieurs historiens le connaissent. Il y en a Corinne Masson, par exemple, qui a exposé il n'y a pas longtemps.
Tiens,
votre place, a écrit un article sur lui, puisque ça se passe à Saint-André, donc elle avait participé à un travail collectif, et d'autres, l'ancien responsable des archives départementales avait également écrit un article sur ce procès, mais c'était des articles assez brefs. Et comme il y a une documentation qui est, faut dire, exceptionnelle, j'ai trouvé utile de la mettre à jour. Parce qu'en général, le chercheur, il faut qu'il aille chercher les documents. Il faut aller les croiser. Je sais pas, j'ai travaillé avant sur Fursy, sur la révolte des esclaves de Saint-Leu. Il faut aller en Angleterre, il faut aller à l'île Maurice. Là, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un énorme dossier. Et donc, c'est celui qui a nourri la recherche de l'historien, puisqu'il y a aussi le travail de la romancière, qui Alors, est bien
en
différent.
En deux mots, qui est Monsieur Morette? Qu'est-ce qu'il fait pour être un monsieur aussi exécrable?
Alors c'est un régisseur, hein, c'est un régisseur créole d'une propriété qui a changé plusieurs fois de propriétaire ou de responsable. À noter, parce qu'on est d'une île au monde quand même, que le propriétaire au moment des faits s'appelle Monsieur Camin, et que Monsieur Camin est cité par Jules Verne, je ne sais pas si vous l'avez lu dans l'ouvrage, puisqu'il a des pêcheries du côté des îles Amsterdam, etc. Et donc, dans un des livres de Jules Verne, on parle de ce Monsieur Camin qui donne la gestion, c'est un négociant, qui donne la gestion de sa propriété à ce Monsieur Morette, qui va se révéler être un malade. Un malade, mais ce qui est important, au-delà de la perversité du personnage, c'est l'usage du fouet. C'est-à-dire qu'il y a, et cela, c'est pas une découverte, hein, c'est connu que l'esclavagisme ne fonctionne qu'avec le fouet.
À ce point-là, lui, c'est vraiment, il est très malade.
Il est très malade, puisqu'il est utilisé une roche que j'ai essayé de retrouver, hein, je suis allé plusieurs fois à Bras des Chevrettes, là où se passait l'histoire, mais j'ai pas pu la retrouver, une roche très spéciale que le commissaire de police de Saint-André
décrit.
Va mesurer au centimètre près pour la décrire.
Et dites pourquoi.
Alors, une roche qui fait un dos d'âne un petit peu sur sa partie supérieure, ce qui permettait de coucher les esclaves dessus, et que quand on les fouettait, ils ne pouvaient pas amortir les coups. Donc, c'est la scène centrale de la fureur de ce régisseur. Mais le fouet, il est présent en permanence dans l'esclavagisme, quelles que soient les sociétés. Il n'y a pas qu'à La Réunion. Moi, je travaille sur La Réunion, donc c'est là que je le présente. Mais il est présent partout. Tout à l'heure, on parlait
Le fameux chabouc.
On parlait légèrement de Desbassins et... Oui. Comme franc-maçon, etc. Il faut savoir que à l'époque, là, 1846, à l'époque où se passe cette histoire à Bras des Chevrettes, Desbassins a interdit le fouet sur sa propriété à Sainte-Marie. Il n'a pas interdit à Saint-Paul
Le fils Desbassins.
C'est le fils de Madame Desbassins.
Parce que 1846, Madame Desbassins.
Elle vient de mourir. Mais il précise donc que dans les années précédentes, où vers 1840-42, il interdit le fouet sur sa propriété, et il précise qu'il ne l'interdit pas. Il ne peut pas l'interdire sur la propriété de sa mère parce qu'elle ne comprendrait pas, ça fait trop partie des usages. Et vous avez peut-être entendu parler de l'abbé Monet.
Alors justement, celui-là, alors, lui, il est pratiquement pour. Hein. Dites-nous.
L'abbé Monet, qui est vénéré par certaines personnes, écrit en 1843, je crois, que maintenant que Desbassins, puisqu'il avait une chapelle sur la propriété Desbassins, maintenant que Desbassins a interdit le fouet, il écrit, je crois, à son supérieur, comment puis-je faire pour gérer les esclaves si je ne peux pas les fouetter? C'est-à-dire que celui qui est présenté des fois comme le papa des esclaves...
Absolument.
Il utilise le fouet comme tout propriétaire. On l'utilise en menace, on l'utilise concrètement, mais c'est l'instrument de base de l'habitation. C'est quelque chose qui fait tourner. Parce que on ne voit pas, il n'y a pas de fusil sur les habitations. On ne voit pas les commandeurs, les géreurs, les propriétaires se balader avec un fusil pour maintenir l'ordre. C'est le fouet, c'est la menace. Et ce que le livre présente aussi, c'est... l'explication pourquoi il n'y a pas de révolte. Parce qu'on pourrait se demander, ils sont 80 et quelques sur la propriété, lui il est tout seul quasiment tout seul avec son fouet, et pourquoi il ne se révolte pas. Et donc à la lecture du livre, on voit les conditions de vie, et on comprend non pas la soumission des esclaves, mais l'exténuation des esclaves, mal nourris, malades, épuisés par des heures de travail, et qui n'ont plus la force de se rebeller, si ce n'est comme plusieurs de ceux qui sont cités dans ce livre, en partant marron.
On parlera du dimanche tout à l'heure où ils sont obligés de nettoyer, je ne sais plus quoi, j'ai oublié le nom.
Le sabre.
Le sabre. Ils sont censés ne pas travailler, mais comme ce monsieur Morette veut que tout soit très propre, il passe des heures à nettoyer.
Il n'y a qu'une meule et ils sont 50 ou 60 à affûter la meule, et donc ils doivent être présents et faire la queue.
Donc ils font la queue, au final, tous les dimanches, ils travaillent malgré eux. Alors je vais quand même lire ce long passage, parce qu'il y a un esclave qui s'appelle Jean-Marie, hein, qui est un cafre, donc un Africain. Et donc, à la page 42, vous dites, alors je lis, « Le lendemain, devant tous les esclaves immobiles, dans le petit jour glacé, on l'installa sur la roche. Maintenu fermement, la corde fit entendre à nouveau son chant infernal, lui arrachant des morceaux de chair et des hurlements de douleur. Les coups furent comptés et le nombre atteint, c'était grosso modo 100. On arrive souvent à 100. Hein. Morette le renvoya au fer, étourdi par la douleur et l'épuisement, il n'écoutait que faiblement les insultes du geôlier, etc. Je passe. Il resta ainsi plusieurs jours. Le peu de nourriture qu'on lui donnait ne suffisait pas à lui faire reprendre des forces. Il tentait de soustraire percepé à la dureté du sol, mais ses efforts lui arrachaient des souffrances qui le laissaient encore plus affaibli. Un matin, il crut que son calvaire était terminé. Les hommes avaient détaché les fers et le tenaient debout devant Morette. Il peinait à se tenir debout. Ce dernier lui intimait de reprendre sa place au champ. Jean-Marie tentait sur ses jambes amaigries de cheminer avec les autres, mais il n'arrêtait pas de tomber et avait à peine à se relever. Les autres hommes le portaient, ses pieds traînant sur le sol. Devant son état d'épuisement, l'intendant avait décidé de le faire travailler assis. En lui demandant d'arracher des mauvaises herbes, Morette, de passage dans la matinée, trembla de fureur en le trouvant ainsi. Il hurla et le roua de coups en l'obligeant à reprendre sa place parmi les autres. Jean-Marie n'avait même plus la force de crier et quelques jours après, il meurt. Alors qu'il était un cafre apparemment de grande stature, un mec qui était jeune en plus.
Voilà. Donc le passage que vous venez de citer est tiré du travail de Madame Grimaud. C'est-à-dire que c'est une fiction. C'est une fiction qui se base sur les interrogatoires des esclaves. C'est-à-dire que tous les actes, tous les gestes, les nombres de coups, etc., tout cela correspond à des choses qui sont mentionnées dans les interrogatoires des esclaves, ou même de M. Camin, du propriétaire. Mais la manière de les lier, c'est de la fiction.
Hein. Puisque... Mais enfin, de toute façon, je pense qu'elle n'est pas loin de la réalité.
Ah non, elle n'est pas loin de la réalité. Non, non, mais dans la manière d'écrire.
Oui, bien sûr.
Voilà. Parce que si vous voulez, l'ouvrage, il est composé, c'est une de ses particularités, de plusieurs chapitres. Un chapitre de l'historien, où je raconte l'histoire.
Et là,
un chapitre de témoignages, enfin de documents d'archives intégraux, et un chapitre de fiction. Puis ça recommence. Comme ça, pendant je crois que c'est 7 fois où on recommence cet aller-retour de façon à. C'est le travail. Alors, dans l'exemple que vous citez, c'est peut-être pas évident, mais Madame Grimaud a redonné de l'humanité aux esclaves. Ce que les témoignages écrits par le greffier dans les interrogatoires, c'est très juridique. Ouais. Il n'y a pas d'homme là-dedans, il n'y a pas d'humain. Et puis, dans ce que moi j'écris comme historien, je relate des faits, je raconte des faits, je fais la synthèse. Donc, elle a su redonner de l'humanité à ces personnes en les réinscrivant dans la parenté, dans le voyage, tout ça.
Au final, il y a un procès et il est condamné. Alors, il est condamné, voilà, il est condamné, il est reconnu coupable, mais enfin, il s'en sort bien.
Oui, et c'est l'autre problème que pose un peu cet ouvrage, c'est celui de la justice coloniale, qu'on peut dire justice coloniale raciste. Pour savoir, ce procès se déroule quelques jours après vous savez, l'histoire de l'esclave Fursy. Ce procès se déroule quelques jours après le procès au civil, hein, pas celui qui avait eu lieu à Paris, qui avait déclaré la liberté pour Fursy, mais celui que Fursy va gagner financièrement à Bourbon, mais où les attendus du jugement sont une condamnation de l'esclave, qui est accusé de l'ancien esclave, accusé d'être de mauvaise foi, alors que le maître, qui était peut-être franc-maçon, est lui toujours de bonne foi. Ce procès, c'est la même chose. La gestion à la fin, on le reconnaît coupable de mauvais traitements, de traitements barbares et inhumains, il a un an et un jour de prison, ce qui, beaucoup pour l'époque, c'est vrai par rapport à d'autres jugements. Le procureur va s'en réjouir, mais il y a quand même mort de au moins 4 hommes.
Une femme qui perd son enfant, quand même. Il y a eu des choses graves, quand même.
Et on est à la veille de l'abolition, et l'Assemblée coloniale débat sur comment supprimer l'esclavage.
Alors, au Tessarda ou la Roulano, alors?
Par exemple. C'est ce qu'on peut dire.
Non, Mario Serviat, Sarda la roue l'azote.
Sarda, cette histoire et cette chanson, c'est lié au fait de ce décalage entre le temps. L'abolition de l'esclavage se passe au mois d'avril. Tout le monde le sait. Les esclaves sont les premiers donc à le savoir. Ce qui se passe à La Réunion est extraordinaire. En Martinique, ce sont les Noirs eux-mêmes qui se disent, on ne va pas attendre qu'un fonctionnaire blanc arrive de Paris avec le texte du décret pour que ce soit enregistré au Conseil supérieur, au tribunal.
On comprend aujourd'hui pourquoi les Réunionnais sont gentils, alors.
C'est la même chose donc en Guadeloupe, c'est la même chose donc en Guyane. Ici, le temps passe.
8 mois.
Juin, juillet, oui. Rien. Août, rien. Septembre, rien. Et le 13 octobre, alors que les Noirs sont au Barachois depuis 2 jours et font la fête en chantant la Parisienne de Casimir de la Vigne, est l'hymne national de la France, de la monarchie de Juillet. Peuple français, peuple de braves, vous nous dites « soyez esclaves », nous nous disons « soyons soldats ». C'est ce refrain-là qu'ils reprennent. Nous sommes le vendredi 13 octobre. L'Oise est arrivée et Sarda décide de ne pas descendre. Plusieurs raisons. Alors, certains disent malicieusement « c'est le vendredi 13, ça porte malheur, il ne va pas descendre ». D'autres disent encore plus malicieusement « il fait nuit, les Noirs sont là et risquent de ne pas les voir ». La vraie raison, c'était le protocole de son accueil n'était pas mis en place. Il n'y a plus de gouverneur, il n'y a plus d'autorité pour l'accueillir. Le protocole se met en place tant bien que mal, et c'est justement, on revient là-dessus, c'est Candida Zema qui le reçoit et qui fait un discours de maçon, donc en le recevant. Et Sarda descend le samedi 14 octobre et devant tous les Noirs donc assemblés, il dit...
Non, je peux pas vous laisser dire ça.
Non, mais attendez. Il dit... J'en termine, puis on discute après.
Légèrement, parce qu'il y a encore
la campagne sucrière. La campagne sucrière n'est pas terminée, le sucre n'est pas fait. Il ne faut pas que le pays risque de s'appauvrir et perdre les bénéfices de la campagne sucrière. Aussi, je vous demande de retourner dans vos champs auprès de vos maîtres pour couper la canne, faire le sucre, et quand le dernier sachet de sucre sera embarqué pour Bordeaux et pour Nantes, alors vous serez libre.
Alors, vous n'êtes pas d'accord, vous?
Non, la question est de savoir...
Votre maître
que
sera votre frère à partir du 20 décembre, mais le 19, vous continuez à travailler pour lui. Non, ça ne marche pas, ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces rassemblements à Saint-Denis d'esclaves, il y en a eu, oui, mais il y a plus de 65 000 esclaves en 1848, vers le 20 décembre. Ils ne sont pas tous allés à Saint-Denis. Comment? Avec le transport par le propriétaire, c'est de la blague. Déjà, quand ils sont, je sais pas, dans les hauts, pour descendre sur le littoral, ça leur est difficile. Et vous croyez qu'ils vont partir plusieurs jours, comme ça, en vadrouille, alors que l'abolition n'a pas encore été votée? Non, il y a des esclaves de Saint-Denis qui sont présents.
Voilà.
Mais c'est tout. Et ça, c'est une partie. C'est une partie. Mais la plus grande partie des esclaves n'est pas au courant de l'abolition de l'esclavage.